Bonjour, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Coralie Dubeau et je suis humoriste. Et là, dans cet épisode, je te présente l'épisode que j'ai présenté au Festival d'humour, le Minifest. Je t'explique un peu. Il fallait envoyer un projet, n'importe quoi. Moi, j'ai envoyé mon podcast. Et là, ils l'ont retenu. Et là, le 14 juin 2022, ben, j'ai présenté un épisode de mon podcast et le sujet que j'ai abordé dans cet épisode, c'était quelle est la place de la femme en humour. Donc, j'ai invité l'humoriste Val Belzile, ainsi que la directrice de l'Observatoire de l'humour à Montréal, un endroit qui regroupe plusieurs chercheuses ou chercheurs qui se questionnent sur la place de l'humour à Montréal. J'ai hâte de vous le présenter. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, c'était la première fois que j'avais une belle conversation à deux personnes et plus. Habituellement, dans les conversations où je suis pas un à un, ça me rend mal à l'aise. Je suis pas très bien. Mais là, ça s'est vraiment bien passé. Puis ça me donne juste envie de renouveler l'expérience. Honnêtement, là, c'était vraiment le fun. Ça se peut que le son puis l'image soient un peu bizarres, c'est normal. C'est à cause de la compression lors de l'enregistrement. Donc, je vous souhaite une bonne écoute.
Mais bonsoir tout le monde, 90% de ma famille et aussi les amis de mes amis. Très enchantée de vous rencontrer. Je me présente, je m'appelle Coralie Dubeau et je suis humoriste et aussi enseignante. Et dans le fond, moi, le podcast, ça fait depuis l'année passée que j'ai commencé à le faire en décembre 2021. Et moi, j'aime beaucoup parler avec les personnes et ça travaille mon écoute. Donc, j'ai commencé ce podcast-là pour apprendre à connaître des nouvelles personnes et surtout trouver une façon de connecter avec les autres sur un thème qui nous réunit en même temps. Fait que j'ai fait une petite bande-annonce que j'ai travaillé très fort, puis ben, je vous souhaite bonne écoute à tout le monde, à ma belle bande-annonce. Et qui, voilà. En graphisme. Donc, je vous présente mes invités aujourd'hui. J'ai Val Belzile, humoriste et qui a fait aussi la première partie justement de Lise Dion à la Place des Arts. Elle a aussi fait le prochain stand-up sur Nouveau que tu pourras voir à la télé. Et j'ai rencontré Val Belzile dans une soirée d'humour qui s'appelle les Bad Girls du Rire. Et j'ai comme beaucoup connecté avec elle. Puis elle a été super gentille avec moi. Puis j'aime beaucoup y parler. Fait que c'est pour ça que je l'ai avec moi. Puis on veut parler de sujets ensemble sur la place de la femme en humour.
Ben oui.
Écoute. Fait que, est-ce que tu voulais aussi ajouter, as-tu quelque chose à ajouter de plus sur moi?
Oui,
Non,
non, tu m'as
après
très bien
notre
vanté.
travail. Oh,
Ça va, merci.
Et je vous présente aussi ma deuxième invitée. Elle s'appelle Lucie Joubert.
Bonsoir.
Bonsoir, Lucie. Et elle travaille justement à l'Observatoire de l'humour à Montréal. C'est la directrice. Donc, si j'ai bien compris, c'est un endroit que ça regroupe plusieurs des recherchistes, des personnes qui font des recherches en humour.
En fait, oui, mais la particularité de l'Observatoire de l'humour qui a été fondé, là, je fais ma petite publicité, par Louise Richer et Robert Herb, qui est un historien de l'humour. Louise Richer, tout le monde la connaît. En fait, ce qu'on voulait faire, nous, c'était de faire se rapprocher, faire dialoguer les chercheurs, les chercheuses en humour et les praticiens et les praticiennes en humour. Ça se fait pas habituellement. On a les comiques d'un bord puis les plates qui étudient l'humour de l'autre côté. Là, nous, on a dit, on va essayer d'amalgamer ça. Ça marche assez bien, je dois dire.
Ah, ben c'est super. Fait que c'est pour ça que je l'ai justement invitée, parce que j'avais lu un article sur elle comme quoi elle avait publié un essai en 2002 justement qui se questionne sur la place un peu de la femme en humour qui s'appelle l'humour du sexe. Donc j'ai commencé à le lire et je trouvais intéressant les idées qu'elle apportait aussi. Fait qu'on a pu on a eu l'occasion de se parler sur Zoom.
Et oui.
Puis ça a super bien été. Fait que je suis vraiment contente aussi de t'accueillir. t'accueillir parmi nous.
Ça me fait plaisir d'être là.
Mais super. Là, on va commencer. Dans le fond, moi, mon concept un bon moment, c'est que j'envoie à mes invités une liste de questions. Puis dans la liste de questions, ben ils en choisissent trois. Fait que dans les questions, on va apprendre, on apprend à les connaître davantage. Puis aussi, on apprend un peu plus leur façon de penser et aussi plus comme leur authenticité. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, alors, Val Belzile, pour toi, que signifie l'expression « prendre sa place »
Ben, je ne l'ai pas analysé juste comme en humour, là, dans le sens que prendre sa place. Moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de difficultés à prendre ma place. J'étais très, très introvertie, très gênée. Je parlais à personne. Moi, j'étais vraiment dans ma tête. Là, j'ai passé des étés complets à ne pas vouloir aller jouer dehors, aller parler à des amis. C'était compliqué. Enfin, ça, c'est bizarre un peu, mais... moi, ça a commencé comme ça, à prendre ma place, je ne savais pas comment faire. Puis à un moment donné, je pense que quand tu te rends compte que tu es capable de prendre ta place, tu peux avoir tendance à prendre toute la place. J'ai pris beaucoup de place. Ouais, il en restait plus beaucoup pour les autres. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, le retour du balancier doit se faire, sinon on se le fait dire qu'on est une personne extrêmement désagréable. Mais ça a toujours été un défi pour moi, là, pas difficile. Ça a toujours été un défi pour moi de prendre ma place. L'humour, c'est pas le seul milieu masculin que j'ai expérimenté. c'est bizarre à dire, mais j'ai fait un DEP en mécanique de véhicules lourds. Alors, dans un garage, on va dire que c'est un peu comme dans une loge, beaucoup de jokes de graines, beaucoup de beaucoup de gars qui parlent fort et pas beaucoup de sièges à toilettes baissés. Exact, il y a beaucoup de moi je vois beaucoup de similitudes, mais je pense que ça m'a aidé là, pour l'humour là, je pense prendre ma place comme femme à travers une gang de gars. Et c'est important de le faire. Je pense qu'il faut foncer dans le tas. Puis surtout moi qui ai commencé l'humour à l'âge de 43 ans, mon premier open mic, il y avait un jeune de 18 ans qui était là. Puis je me souviens, Noah, shout out Noah, qui m'a dit, « Ah ben là, les autres, ils me font des jokes parce que je suis le petit nouveau de la gang. » Moi, j'ai voulu être fine, tu sais, un peu ma tante. J'ai dit, oh, pauvre petit, ben là, à soir, c'est moi la petite nouvelle de la gang. Il dit, toi, c'est pas pareil, t'es pas dans la gang. Fait que, c'était même pas un gag, c'était vrai. J'ai fait, OK, je vais aller manger mon lunch à la table des registres. Et c'est vraiment, ouais, fait que c'est vraiment comme ça. Puis, ben, c'est juste que lui, peut-être, était naïf à 18 ans de l'exprimer comme ça. Des fois, il y en a qui, je pense, peuvent penser ça des fois, que quelqu'un ne sera jamais dans la gang, ne sera jamais... Il faut juste avoir confiance, puis prendre sa place, puis faire attention de laisser celle des autres disponible.
C'est justement ça, tu dis prendre sa place, laisser la place aux autres, et moi ça me fait penser comme quand j'étais petite, souvent j'étais plus dans l'écoute de la personne, donc quand je me ramassais souvent avec une personne qui aime beaucoup parler, j'étais plus du genre à être réservée, puis là c'est justement ça, j'essaie à prendre ma place comme toi tu le fais si bien en humour, fait que pour ça justement je me questionnais sur la place, quelle est la place de la femme en humour. Comme tu as souligné tantôt, c'est un métier issu qui est vraiment majoritairement masculin. Donc, c'est d'essayer de se retrouver dans les discussions qui sont majoritairement masculines et de trouver une façon de rentrer dans la conversation puis de faire sa place également. Donc, merci.
De rien.
Et Lucie, toi, de ton côté, t'avais choisi une question. Je vais apprendre aussi à plus te connaître parce que je trouve que t'es une belle personne. Je t'ai rencontrée tantôt. C'est quoi les événements dans ta vie qui t'ont amené à t'impliquer dans le milieu de l'humour ou à faire de l'humour?
En fait, faire de l'humour, j'en ai fait une fois dans ma vie. C'était en septembre dernier, j'ai pris un cours à l'École nationale de l'humour, un cours du soir. Et comme on n'a pas de notes, donc je ne peux pas vous dire si j'ai échoué au cours ou sinon, là, mais c'était vraiment très important pour moi parce que toute la vie, moi c'est le contraire, vous faites de l'humour, moi je l'analyse. Alors j'ai fait une thèse de doctorat sur l'ironie et l'humour, j'ai fait des livres sur l'humour et tout ça. Donc moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement de voir la façon dont les femmes prennent leur place en humour, qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas encore toute la place qu'elles devraient avoir, quels sont les déterminismes de la condition féminine, qu'est-ce que ça veut dire être femme en humour et tout ça. Donc ça m'a intéressé depuis le début, et c'est surtout que quand on fait une thèse de doctorat, on sait qu'on s'embarque pour 6 ans, ou 4-6 ans minimum, disons. Alors, on veut avoir du plaisir, et moi, je me suis dit, je vais pas m'ennuyer pendant 6 ans, j'ai dit, je vais faire ça sur l'humour. Et là, ce qui est intéressant, ce que j'ai vu déjà à ce moment-là, étudiante, il y a 300 millions d'années, c'est la résistance de l'université face à l'humour. Alors, j'ai contourné le problème en disant, OK, je vais travailler sur l'ironie alors, parce que l'ironie, les grands philosophes ont travaillé là-dessus, Kierkegaard, Jankélévitz, les gros noms là, de la philo ont travaillé là-dessus, donc ça me dédouanait, moi, et j'ai pu en même temps travailler, et ça je le précise, en littérature. Parce que ici, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup au Québec présentement, c'est de l'humour de scène. Quand on parle humour, on parle humour de scène. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir ce que les femmes faisaient dans les livres. Parce que dans les livres, on ne soupçonne pas jusqu'où les filles peuvent aller trop loin, pour ainsi dire, parce que il y a un contact qui est plus privilégié. Parce que vous autres, moi je suis une humoriste ratée, frustrée, j'aurais aimé ça, mais je n'aurais jamais eu le courage que vous avez d'aller affronter un auditoire qui est juste devant vous, là, que vous devez gérer tout ça. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais l'analyser, et je vais l'analyser dans les livres pour voir jusqu'où les femmes allaient. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la production des femmes du Québec en littérature toujours, j'insiste là-dessus, de 1960 à 1990, là, pour voir, et il y a énormément d'audace, mais on ne soupçonne pas ça parce qu'on ne lit pas les livres de femmes. De la même façon qu'on ne soupçonne pas que les filles ont de l'humour parce qu'on résiste encore à l'acheter des billets pour voir des spectacles d'humour. Donc, il y a beaucoup de parallèles entre les deux, mais comme pour revenir à ta question, c'est que moi, je l'ai toujours analysé. Je l'ai toujours ressenti de l'autre côté, l'humour des femmes. Alors, quand je vois du monde comme vous autres, là, qui s'assume et qui s'en va prendre le risque d'aller faire rire un auditoire, moi, je me dis, on avance, ça avance lentement, mais on avance. Parce que tu as parlé de mon livre « L'humour du sexe », merci pour la publicité, mais c'est un livre qui date quand même de 20 ans déjà, et il y a des choses là-dedans, heureusement, qui sont dépassées, ben, il y a des choses qui sont encore actuelles et que vous vivez, vous, la jeune génération. Donc, c'est un peu ça. M'impliquer dans le milieu de l'humour, ça a été ça. Puis quand j'ai pris ma retraite, ben j'ai succédé à Louise Richet à la tête de l'Observatoire de l'humour, simplement parce que, tu l'as mentionné, c'est une équipe de gens. On a du sang nouveau récemment, on a des projets, c'est vraiment magnifique. Et on fait vivre la recherche en humour, parce que ça, c'est une de mes obsessions. Je trouve que par rapport à la place que l'humour occupe dans la société québécoise, il n'y a pas tant de recherche que ça qui s'effectue présentement. Donc, avec l'Observatoire de l'humour, on a des outils menés par du monde passionné qui va justement se pencher sur la question. Et là, je prends le crachoir, excusez-moi. Juste un exemple. À la question, la fameuse question, y a-t-il trop d'humour au Québec? Ben, nous, on va répondre, c'est pas ça la question. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi les Québécois ont tant besoin de rire, les Québécois et les Québécoises? On triture un peu les questions pour aller ailleurs et observer, c'est quoi les thèmes de Val? De quoi tu parles, toi, Coralie? Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui vous motive à faire de l'humour? Quels sont les obstacles que vous rencontrez, etc.? Donc, on est de l'autre côté de la scène, mais on vous aime tellement. On est contente que vous soyez là.
merci. Lisette, je trouve ça drôle, tu sais, de parler de recherche en humour, tu as remarqué qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis j'appuie justement, je fais du pouce sur ce que tu as dit, parce que j'ai commencé justement une maîtrise qui se questionne sur l'humour au Québec, comme étant l'utilisation de gestion de classe, comme est-ce que c'est efficace d'utiliser l'humour pour recadrer un enfant au lieu de le chicaner, est-ce que c'est possible d'utiliser l'humour, de le reprendre, puis j'ai été déçue de voir justement qu'au Québec, il y a peu de sujets. C'est souvent aux États-Unis. On est comme des pionnier en tant que chercheur ou chercheuse dans ce sujet-là. Fait qu'il y a plein de choses à voir là-dedans, c'est sûr. Fait que super. Et Val, on va venir à toi pour la seconde question. C'est quoi, toi, tes défis que tu as eu à relever en tant que femme dans le milieu de l'humour?
Je dirais que j'ai eu des défis à relever en tant que femme, mais je pense que là, je me heurte un peu plus à l'âgisme qu'au sexisme. Ouais, c'est là, je le vois, là, je suis rendue à un niveau où des fois, il y a des rôles de télé, il y a des chroniques à faire et tout ça, puis wow, on veut plus ça, des gens qui font du TikTok, parce que on s'imagine que les adolescents vont soudainement demander à leurs parents de s'abonner au câble, je sais pas. je sais pas si c'est ça la théorie, mais j'ai un peu l'impression que de ça, tu sais, c'est sûr que là, on est dans une espèce de transformation des médias, tu sais, des médias de masse, et de moins en moins de gens qui consomment la télévision, la radio. Fait qu'on essaie de prendre des gens du web, les mettre à la télévision et à la radio. Peut-être que c'est la solution. Moi, je pense que non. Mais en fait, je le sens que c'est plus difficile d'être un trend, ou d'être la saveur du mois là à cause de mon âge. En même temps, quand on regarde ça, là, les billets en salle, les achats de billets, c'est 45 ans et plus là, les gens qui achètent des billets dans les grandes salles, parce que ça coûte cher. Entre autres, ça prend des gens qui ont de l'argent. C'est sûr, des personnes, un enfant de 9 ans qui a une tablette qui va liker beaucoup de TikTok achètera peut-être pas nécessairement des billets de spectacle. Fait que c'est ça. Là, je me rends compte là, que, oups, OK, je suis pas toute verte, puis je serais peut-être un petit peu plus cool là, si j'avais 28. Mais sinon, en tant que femme, je dirais que moi, j'ai été chanceuse. Parce que je suis arrivée après le MeToo, hein. C'est comme, tu sais, un bon 2-3 ans après, même peut-être 4-5 ans. Mais... Puis le ménage avait été fait. Il y a un backwash qui a été fait. L'eau est pas mal plus claire. Il y a moins de bébites dedans, ça va. fait que, tu sais, c'est sûr que aussi, les collègues masculins sont plus sensibilisés au fait qu'on est là, que c'est plus tough pour nous. Mais encore, je dirais, des fois, ce que j'aime moins, ça peut arriver qu'on se frotte à de l'amertume. De l'amertume d'une génération d'humoristes qui étaient nombreux. Peut-être, tu sais, ils sont arrivés une grosse gang en même temps. Là, maintenant, ils ont peut-être mon âge, un peu plus jeune, mais ils ont l'impression que s'il y avait été une fille, ça aurait été plus facile, puis que les filles ont le plus facile, puis ils ont un peu cette impression-là, le pauvre homme blanc.
Ben oui.
Ouais, certains, c'est une minorité. Fait que des fois, ça peut être un peu bon, mais en même temps, je peux comprendre leur amertume, là, mais je la prends pas sur moi. Parce que je suis pas convaincue que c'est ça la raison. T'sais. Puis nous, les difficultés qu'on a, je pense que là, j'ai beaucoup de fun avec mes collègues masculins autant qu'avec les filles. J'ai beaucoup de fun avec le public. J'ai beaucoup de fun dans l'industrie. Je vois pas de manque de respect. Je vois pas beaucoup de sexisme. Par contre, l'étape avant de se rendre là, les open mic, les débuts où là, les petits gars sont plus jeunes, plein de testostérone, ça a 20, 22, 19 et quart, tu sais. Là, je te dirais qu'il y a peut-être un autre petit backwash à aller faire là-dedans. Je pense que c'était beaucoup plus difficile au début. Avoir du booking quand t'es une fille, une madame, puis eux autres qui ont toutes 20 ans, puis ont l'impression que ça peut pas être drôle parce que t'es comme leur mère ou leur prof d'école, c'est sûr que ça va être quétaine. Ça a été plus difficile. Mais maintenant, à un moment donné, quand tu te fais connaître puis que t'as fait des bons coups, ben là, peut-être qu'à quelque part, il y a un peu de discrimination positive envers les femmes pour qu'il y ait de la diversité. Mais ça, c'est le public qui le demande. Hein? Mm-hmm. Puis le public a tout le temps raison. Parce que tu vas dans une soirée d'humour, Puis s'il n'y a pas de femmes sur le pacing, là, la personne qui a organisé la soirée va se le faire dire par les femmes, puis par des gars qui sont dans... Moi, ça, il n'y a pas de filles le soir. Oui, on sait des gars qui parlent la même affaire. Ils vont se le faire dire parce qu'il y a la moitié de la salle que c'est des madames. Puis dans les gars, ils trouvent drôle aussi que ce soit une femme qui soit là. Tu sais, c'est un autre point de vue, puis c'est intéressant. C'est pas mal moins pire, je dirais, là. Mm-hmm. Quand tu montes un petit peu de niveau, là, mettons, on parle, j'aime pas trop parler en termes de niveau, je trouve ça, mais tu sais, là, maintenant que je peux faire des 30 minutes, je peux faire une heure, tout ça, ben là, à ce moment-là, je trouve que c'est plus facile, il y a plus de place pour les filles, puis ben, étant donné qu'on n'est pas beaucoup encore, on n'est encore pas assez, je trouve. Ben ça fait que là, je joue beaucoup.
T'en profites, c'est
très
important.
Chanceuse de jouer beaucoup, ouais. Puis il y a aussi, tu sais, je tiens à le dire, là, il y a le bordel qui essaie d'avoir toujours une fille au moins sur chaque spectacle, d'avoir. Puis c'est difficile pour eux parce qu'on est très occupés, on est très en demande, puis on n'est pas tant que ça de filles qui sont prêtes pour faire le bordel. Il y en a une grosse gang qui s'en viennent dans un an ou deux d'après moi, mais là en ce moment, c'est peut-être plus difficile pour eux de booker des filles, mais ils tiennent à le faire. Ils ont une politique pour que ce soit diversifié comme pacing. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Charles Deschamps. J'ai dit, moi, je suis très contente de voir ça parce que les autres soirées, les autres comedy clubs, des soirées en région, même les open mic dans les parcs, regardent le bordel comme un exemple. Mm-hmm. Parce que c'est à cause du nom, le bordel, tout ça, à cause du prestige. Fait que je pense que c'est vraiment un pas qui va être un peu suivi par tout le monde. Là.
C'est ça, je remarque, c'est que, comme tu dis, ta réaction, c'est ça, je remarque, il y a une meilleure ouverture, il y a une amélioration, il y a toujours des défis à rencontrer dans les soirées d'humour, mais il y a vraiment une amélioration au niveau de l'inclusion des femmes en humour. Comme tu dis, le bordel, souvent, on écrit plus aux femmes pour être sûr. Au moins, moi, j'ai jamais vu un line-up comme juste d'hommes au bordel.
C'est rare, maintenant, c'est très rare, alors qu'avant, c'était presque tout le temps.
Ouais.
Tu sais, puis dernièrement, maintenant qu'il y a le bordel 1, le bordel 2, on est beaucoup plus de monde dans les loges. Fait qu'on était toujours juste une fille dans les loges parce que, tu sais, t'es la seule fille sous le show. Mais là, étant donné qu'il y a deux shows, des fois, on est deux filles. D'ailleurs, on est souvent deux filles. Fait que ça, c'est super le fun aussi parce que les filles, on se voit jamais parce que on n'est jamais bookées en même temps.
Mm-hmm.
Parce qu'on n'est pas assez pour, tu sais. Fait que. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça super le fun. Dernièrement, j'étais avec Josiane Aubuchon puis Coco Béliveau dans une loge au bordel. Puis on parlait super fort de nos menstruations puis de nos gynécologues. Puis les gars regardaient leur téléphone un petit peu mal à l'aise. C'est parfait. C'est parfait. Faut que ça soit comme ça, des fois.
S'ils peuvent aborder des sujets qu'ils aiment bien, nous aussi, on peut bien. On va pas se laisser... On va pas se garder une petite gêne, là, mettons.
Oui? Moi, j'aurais une question pour toi, Val. On sait que un ou une humoriste, c'est aussi beaucoup l'équipe qu'il y a derrière elle ou derrière lui. Et moi, souvent, les humoristes me disaient, moi, mon gérant ou ma gérante est très honnête, ils vont pas miser sur moi comme cheval, ils ont d'autres chevaux plus importants que moi, donc s'il y a de la place, s'il reste de la place, je serai là. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un changement aussi en arrière de toi? Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand tu as dit les filles dans la salle vont exiger plus de filles sur scène. Ça veut dire que le message est en train de passer. Mais de ton côté à toi, en arrière de toi, l'équipe, comment ça se présente?
Moi, j'ai une équipe. Moi, j'ai un gérant, mais il y a aussi des assistantes. Et ça fait que tu sais, c'est une équipe mixte. Puis je pense que tu sais, c'est sûr que moi je suis la petite nouvelle dans la boîte là, mais ça se passe bien. Je sens aussi que c'est important peut-être d'avoir une boîte de gérance où il va y avoir plusieurs artistes, mais des artistes qui ont chacun quelque chose de particulier. Comme ça, tu sais, par exemple, je suis avec Alex Roy, quand on demande à Alex, c'est pour un style, moi je suis complètement différente. Quand on me demande moi, c'est pour autre chose. Fait que je pense que ça se passe vraiment bien, puis j'ai jamais l'impression de passer comme à la fin là où qu'on s'occupe pas de moi.
Non.
Mais en tout cas, ben je suis dans la même agence que Lise Dion aussi, fait que ben on est deux On est deux humoristes. Il y a un gars, c'est lui la minorité. Et à date, je sais pas, les filles gagnent dans cette équipe-là. Juste à cause de Lise, à cause de moi.
Qui est surtout une grande figure aussi de l'humour, une pionnière aussi en humour, là.
Oui, oui, puis c'est, moi j'apprends beaucoup d'elle parce qu'elle, elle a vécu aussi une autre, je ne veux pas parler pour elle à sa place, compter ses affaires, mais elle a vécu une autre époque, hein, ça fait, on a fêté son 35e anniversaire de carrière, donc de 35 ans, elle, quand elle a commencé, c'était bien différent, le regard des hommes sur les femmes en humour, là, c'était, ouais. Il y en avait, tu sais, il y avait deux, trois filles, fait que c'est, j'écoute beaucoup ses conseils, puis, ouais. Mais je trouve que ça a beaucoup changé pour le mieux, puis il reste la place pour l'amélioration, mais je crois que c'est bien parti.
Puis c'est quoi le conseil qui t'a comme peut-être plus marqué de sa part?
Moi, je trouve ça drôle parce que les autres humoristes, ils me disent tout le temps, faut que tu sois drôle en partant. Elle a dit, les deux premières minutes, ça sert à rien de mettre une joke là. Ils vont te regarder puis te juger. Ils regardent comment t'es habillée. Ils regardent comme ça.
C'est excellent.
J'ai dit, pas tant que les gars, ils ont zéro cette conscience-là, parce que anyway, un gars, c'est une scène en t-shirt, tu sais. Fait que, vas-y, garoche tes jokes, ça va, t'es habitué. Puis peut-être que quand on est une madame qui arrive là, ben, ils vont regarder, genre, si, tu sais, mes vêtements sont bien ajustés, si mes cheveux sont bien placés. Ça se peut, ça. Je pense que, ce que si elle me le dit, ça doit y avoir pas mal de vrai là-dedans.
Elle a dû l'avoir entendu, quelqu'un, un espion dans la salle.
Elle a dû s'en rendre compte avec le temps.
Ça, oui, elle a tellement de vécu, j'en doute pas. On va passer à ta deuxième question, Lucie. Peut-on enseigner ou étudier l'humour des femmes?
Oui, on peut l'étudier certainement parce que je l'ai fait toute ma vie. L'enseigner, ça, c'est une autre paire de manches parce que, justement, l'humour, ça nous échappe souvent et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est important d'insister là-dessus. Moi, c'est surtout en littérature. On étudie quelques stand-up dans mes cours, mais ce qu'on voit là-dedans, c'est par exemple ce qu'on peut apprendre dans un cours à l'École nationale d'humour, c'est-à-dire quels sont les ressorts humoristiques. Est-ce que c'est de l'exagération? Est-ce que c'est de l'absurde? Est-ce que ce sont des choses comme ça? Et on les analyse, mais en même temps, enseigner l'humour, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont imperméables à l'humour. C'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais ils vont pas capter ce qu'il y a de savoureux dans un texte donné. Et probablement que c'est plus facile d'aller voir un show d'humour où là on a l'aspect plus physique, là, toute la gestuelle et tout ça. Donc c'est plus difficile, mais il faut dire aussi que c'est vraiment un défi intéressant parce que moi j'ai enseigné des textes humoristiques aussi à des anglophones et des allophones. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment trois lectures en même temps. Là. La lecture du texte de base, on décortique le vocabulaire et ensuite de ça, on voit la joke. Évidemment, les gens ne rient pas beaucoup parce qu'il n'y a rien de plus plate que de se faire expliquer une farce. Là. Tout le monde le sait, vous autres au premier chef, mais disons qu'il y a une sorte de plaisir. Par exemple, si on étudie une parodie, c'est vraiment un texte ou un film qui va se moquer d'un autre type de film ou d'un autre type de texte. Alors, si on voit, par exemple, une parodie de film de vampire, mais on ne sait pas que c'est une parodie, on va dire « Ah, c'est bon, j'ai aimé ça, bon. » Mais si on sait en plus que c'est une parodie, on se sent plus intelligent parce que là, on est capable de mesurer tout l'écart qui sépare le texte de départ ou le film de départ et le texte d'arrivée ou le film d'arrivée. Donc, ça, ce sont des choses qui s'enseignent et ce sont des choses qui s'apprécient, mais à la longue, parce que je dis souvent, moi, que la lecture d'un texte humoristique, c'est un plaisir solitaire, parce qu'on n'a pas les autres à côté de nous qui rient en même temps que quand on vous écoute comme humoriste, mais il y a quand même cette satisfaction-là qui est beaucoup plus ténue, beaucoup plus diffuse, mais qui est intéressante aussi parce que ça sollicite évidemment beaucoup l'intellect. Puis, ce qui est intéressant aussi d'enseigner dans l'humour, c'est ce dont je parlais un petit peu au départ, c'est les mouvements dans l'humour. On sait que l'humour, c'est très, très, très ancré dans le présent, dans des référents, dans l'actualité, ou alors on fait des références historiques, mais il faut les connaître, ces références-là. Donc, il y a tout un bagage qui est très éphémère aussi. Vous, quand vous avez fait une blague, vous pouvez pas la refaire. Vous pouvez faire plusieurs spectacles, ce que je vous souhaite, là. Mais je veux dire, on peut pas reprendre d'une façon soutenue. La même blague, ça fonctionne pas. C'est un cadeau. L'humour, c'est un cadeau. Ça va vite et ça disparaît aussi vite. Donc, mais à travers ça, on peut voir, on peut comprendre l'histoire, soit d'un peuple ou d'une région. C'est très différent parce que quand j'enseignais le français langue seconde, c'était très intéressant parce que je parlais d'humour, évidemment. Et il y a quelqu'un de Terre-Neuve qui m'a dit, on se ressemble beaucoup parce que moi, je comprends pas votre humour, vous comprenez pas le nôtre, mais nous sommes des insulaires et nous avons une sorte de fierté puis une façon d'aborder dans ce temps-là, c'était l'absurde, là, qui était surtout sur les scènes. Et il voyait les rapprochements, même si le court-circuit humoristique ne se faisait pas, il y avait toute une compréhension du contexte. Et moi, c'est ça qui me fascine, parce que quand je vous écoute, j'écoute les filles, je les lis, je les étudie, je vois les thèmes, je vois où est-ce que ça s'en va, je vois les différences. Par exemple, il y a 20 ans, je suis assez vieille pour parler de il y a 20 ans, il n'y avait pas d'humoriste qui était mère, ou à peu près pas. Il y avait Lise Dion, mais qui avait déjà élevé ses enfants. Les autres femmes devaient choisir entre avoir des enfants ou faire un spectacle. D'ailleurs, Claudine Mercier avait dit, j'avais le choix entre faire un show et faire un enfant, j'ai fait un show. Mais là, maintenant, c'est plus du tout la question. Là. On est rendu complètement ailleurs. Mais ça, pour moi, c'est un progrès parce que ça ajoute aussi une autre dimension. Ça montre qu'on n'est pas obligé de choisir entre l'humour ou la famille. Donc, sociologiquement, pour quelqu'un qui cherche comme moi, ben, c'est intéressant de voir la distinction. Donc, tout ça, c'est des choses qui s'enseignent, pas nécessairement à l'école d'humour, mais qu'on découvre quand on se plonge dans un texte qui a de l'humour. Les thèmes, le contexte, comment on appréhende ça. Est-ce que je le trouve drôle, ce texte-là? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué ou c'est tout simplement que ce sujet-là ne me tente pas ou que je suis imperméable soit à l'ironie, soit à l'humour? Parce que malheureusement, comme je le disais tantôt, il y a des gens comme ça qui sont imperméables aux blagues. Ça fonctionne pas. Donc, je vous en souhaite pas dans vos
discours. Si, mettons, ça marche pas, une joke, c'est parce que les gens sont imperméables. C'est pas notre faute.
Exactement. Ou c'est parce que, disait Yann Kelevich, vous avez chatouillé un endroit où vous voulez pas être chatouillé. les deux possibilités.
Ah ben, je trouve ça le fun parce que tu parles des thèmes, puis toi aussi, comme tu disais, tu as étudié la littérature féminine, les auteurs de femmes, puis est-ce qu'il y a comme des thèmes qui reviennent souvent que tu as remarqué par rapport à ça?
Ben, ils sont très, très historiquement ciblés, par exemple, dans les années 60, on se moquait on se moquait pas des hommes, on se moquait des autorités, des institutions représentées par les hommes. Le clergé, là, ça a l'air loin de nous, mais c'était vraiment ça. Les autrices qu'on dit maintenant, ils riaient tellement du clergé, là, des curés, tout ça, ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas même que certains textes aient pu être publiés, là. On se moquait aussi des médecins, parce que les médecins ont jamais cru les femmes. Nous, c'est dans notre tête, hein, les maladies, on est nerveuses et c'est pour ça, tout est question de nerfs. L'éducation aussi, parce que les femmes n'avaient pas nécessairement accès à tous les paliers d'éducation. Donc, ça a changé. Ça, c'était les années 60. Paf! Dans les années 70, ben là, le mouvement féministe a commencé à rouer dans les brancards. Alors là, c'était vraiment, là, on a redéfini un peu la cible. Puis là, c'était vraiment les hommes derrière les institutions. Comment ça se fait qu'on peut pas faire bouger les institutions? Puis dans les années 80, ben là, il y a eu tout un autre mouvement. On appelle ça on dit que le féminisme s'est essoufflé. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est devenu plus collectif. Ben là, dans les textes, ça paraissait parce qu'on était dans les nouvelles. C'était des fragments. Alors là, dans les nouvelles, c'est un peu comme les monologues, ça prend une bonne chute. Et on voyait où c'est d'exercice. Je ne veux pas vous donner un cours là, ce soir, mais c'est un peu ça. C'est un peu cette façon-là de voir comment ça évolue, puis comment, si je relis, par exemple, les textes des années 60, je dis, ben, voyons, donc l'ironie est encore là, l'humour est encore là, mais l'effet n'est pas le même sur le lectorat. Forcément, on est rendu ailleurs, mais historiquement, moi, pour moi, ça reste très intéressant. Ce qui se passe maintenant, là, c'est intéressant. Là, je suis en train de lire le livre d'Étier, là, Catherine Étier. Bon, tout ça, il y a toutes sortes de choses qui se brassent. Alors, c'est plus juste de l'humour, c'est presque de la tragédie dans l'humour. Il y a toutes sortes de nuances. Et ces nuances-là, je pense qu'elles sont révélatrices de certains états d'âme généraux, sociaux, je le dirais comme ça.
Qu'est-ce qu'on vit présentement, oui. les sentiments qu'on a par rapport à une situation
oui,
particulière.
Oui.
Ah, mais merci beaucoup. Écoute, c'est quand ton prochain cours? Je vais m'abonner.
Je suis à la retraite maintenant. Ah. Fait que, oui, puis j'ai jamais enseigné en distanciel, comme on dit, donc j'ai pas de captation, puis c'est peut-être mieux comme ça.
Mais merci beaucoup, écoute, Lucie. Et là, je vais enchaîner sur ma troisième question à Val. C'est quoi les conseils que toi, tu donnerais à une femme qui souhaite se lancer en humour ou s'impliquer dans le milieu de l'humour?
S'impliquer, je sais pas, là, je trouve ça tout le temps délicat de donner des conseils parce que je trouve que moi-même, je suis juste un bébé humoriste. Ça fait très longtemps, ni rien. Mais je dirais que je donnerais à une femme le même conseil que je donnerais à un gars. Tu sais, il faut que tu sois drôle. Faut que tu sois drôle, faut que tu aies de la confiance. Puis il faut pas que tu te laisses abattre. Tu sais, c'est. Des fois, on a tendance à. Dans notre tête, on a tendance à être bien, bien stressé avec des affaires, là. Mon Dieu. C'est. Il y a personne qui va voir un show d'humour. Il y a personne qui colle une gardienne. Un Uber. Qui achète un billet, deux. Qui fait ça. Personne qui colle une gardienne, c'est pour venir nous haïr puis nous juger. Hein? Et, enfin, je sais pas si vous faites ça, vous êtes des bizarres de personnes. Parce que, moi, je suis jamais allée voir une soirée en disant, hey, ça me tente haïr du monde puis d'avoir l'air bête puis de pas rire à la merde puis c'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, faut voir les gens qui sont devant nous comme des amis. OK, puis pas des ennemis. Puis il faut juste les séduire, puis il faut juste être nous-mêmes et avec ben de la confiance. Là, maintenant, je suis rendue avec un peu plus de confiance naturelle, mais j'ai beaucoup, beaucoup, moi, craqué ma confiance.
Ah!
J'avais besoin de craquer ma confiance. Tu sais, ça voulait dire souvent un verre de vin, mais ça voulait dire aussi, des fois, tu sais... Des fois, roaster un peu les autres humoristes dans les loges, prendre beaucoup plus de place, justement, tu sais, pour faire comme tu sais, un peu comme le gars qui s'en va faire de la boxe ou de la lutte. Bon, c'est moi j'avais besoin de faire ça, là, j'ai plus besoin de le faire, on dirait beaucoup moins, là. On dirait que je sais plus où je m'en vais, tu sais. Mais c'est quoi la question?
Mais tu as répondu.
Mais faut être drôle. C'est ça, faut être drôle. Faut se permettre d'être drôle. Oui. Puis on peut aller loin. On peut aller aussi loin que les gars. C'est pas vrai que on peut dire moins de choses parce qu'on vient de une femme. Je trouve qu'on peut dire plus de choses. Aujourd'hui, en 2022, il y a plein d'affaires qu'on peut dire que les gars peuvent pas dire. Il y a plein d'affaires que je peux dire parce que je suis une femme plus vieille. Puis plus je vais être vieille, plus je vais pouvoir tout dire ce qui me passe par la tête. Parce que ma grand-mère, Rita, est décédée à 96 ans. Puis elle disait tout ce qu'elle pensait. C'était acerbe des fois. C'était des affaires qu'ils se disaient pas. Mais plus t'es âgé, plus t'as le droit. Les gens te pardonnent, font comme « Oh ben, coudonc, la vieille, à chante. » Fait que faut pas avoir peur, faut pas avoir peur d'être là. On a le droit d'être là. On a le droit aussi, des fois, de se péter la gueule.
Mm-hmm.
Ça veut pas dire que tu nuis à l'humour féminin au complet parce que une fois, t'as fait une joke plate pis ça peut marcher. Fait comme les gars, là, tu sais, fait comme, oh, celui-là m'a l'enlevé de mon stock pis là, tu fais, pis c'est tout, là, pis après, t'en fais une autre qui arrive drôle, tu sais. Fait que je pense que la seule chose, c'est quelqu'un qui est drôle, il a sa place. C'est pas un peu son genre.
Mais justement, t'as dit séduire, séduisante, une personne séduisante, puis ça me fait penser à un conseil qu'un humoriste m'avait donné, c'est que le but, c'était pas d'être, lui, c'était plus de pas être drôle, mais de te faire aimer par le public. C'est ça, parce qu'on va plus se souvenir de toi.
Moi, j'ai jamais ri une joke de quelqu'un que j'haïs.
Ouais.
Tant dans la vie que sur scène, quelqu'un qui me fait chier, là. Puis il en sort une méchante bonne. Tu sais, pense à ça. Tu sais, la madame, tu sais, mettons, t'es dans l'autobus, tu fais 3 heures d'autobus, elle chiale tout le long, elle prend de la place, elle tousse, puis ça fait des bruits dégueulasses. Ça, t'es comme, mais maudit, cette madame-là, pourquoi je suis dans le même autobus qu'elle? Puis là, à un moment donné, elle parle fort, puis elle en sort une vraiment bonne, personne ne va la rire pareil. Elle est désagréable. On doit d'abord avoir un peu d'affection pour la personne qui est là.
Mm-hmm.
pour se reconnaître, pour ceci, si la personne c'est un trou de cul. Même chose que, tu sais, pour un humoriste qui se ramasse sur une liste et qui a fait des affaires pas nettes, difficile de revenir, là, même, pas très possible, d'après moi, parce que, quand tu as ça derrière de la tête, comment tu veux rire de sa joke, tu sais, ça prend, faut que t'aimes t'aimes la personne qui est devant toi, je pense, pour rire à ses blagues, tu sais. Pas obligé de l'aimer dans le sens, je partirai avec à soir, là, ou je ferai une demande en mariage, mais tu sais, faut au moins que tu sois capable de dire, mais ça, j'irai prendre un café avec, ça serait le fun.
Avoir une conversation enrichissante avec
toi. Ouais, ouais, j'irai magasiner avec Martin Matt, je suis capable de rire, mais tu sais, si c'est quelqu'un que j'irais même pas magasiner avec, puis oui, j'ouvrirais même pas la porte, je répondrais même pas au téléphone s'il m'appelait, je pense que c'est parce que ça arrive dans la vie, tu sais, je le transpose sur la scène, mais des fois, tu vas travailler avec quelqu'un, tu vas avoir un conflit, cette personne-là, tu fais comme, oh, c'est qu'à cause, oh, je suis plus capable, puis à tous les jours, ça, mais tu peux sortir la meilleure joke du monde, t'arriveras pas, je suis sûre. Les autres vont la rire, tu vas faire, je vois pas pourquoi vous riez. C'est une conne.
Pourquoi? Ah, ok. Ben, je trouve ça intéressant parce que moi, l'effet de ce conseil-là m'a fait, c'est me rassurer parce que le fait de pas être drôle, tu sais, de se dire, t'as juste à être l'air sympathique aux yeux du monde, d'être apprécié. Mais ben là, ça m'enlève le poids de, ok, il faut que je sois drôle, je ris ça, là, une ligne, un punch, là. Dans les soirées d'humour, c'est souvent ça que j'observe le plus, qu'il y a beaucoup de monde qui font des une ligne, un punch. Puis là, moi, mon type d'humour, c'est vraiment pas ce style-là. Fait que là, j'étais comme, coudonc, je suis drôle, personne rit. Ma mère avait peut-être raison, je suis pas drôle, tu sais. Mais finalement, peut-être
que... Mais je te dirais, plus que d'être sympathique, ce qui est important, c'est d'être intéressante. D'avoir quelque chose à dire, puis les gens, ils comprennent pourquoi tu leur parles de ça, tu sais. Ils comprennent, tu sais, des fois, là, c'est quelque chose, c'est un cheminement qu'on a fait dans notre tête, mais il faut l'expliquer au monde, comment on en est venu à penser ça, tu sais. Je pense que c'est intéressant d'avoir quelque chose à dire. Des fois, ça peut arriver que le public ne rit pas pendant une minute ou deux parce qu'ils t'écoutent. Ils ont le sourire en face, ils sont contents. Là, mais c'est sûr que si tu as 5 minutes, c'est mieux d'avoir des jokes aux 30 secondes, d'après moi. Là.
Ça doit être tous des imperméables à l'humour. Hein? Super, puis on va enchaîner sur la troisième question de Lucie. Et toi, comment reçoit-on l'humour des femmes?
C'est drôle parce que cette question-là court-circuite un petit peu celle à laquelle tu viens de répondre, Val, parce que moi, ce que je voyais là-dedans, c'est une résistance qui est beaucoup moins là qu'elle l'a déjà été par rapport aux femmes, parce qu'on entend souvent dire, mais on entend encore dire que les femmes sont moins drôles que les hommes nécessairement. Ça, je suis sûre que vous l'avez entendu, les filles, mais recevoir l'humour des femmes, ça, c'est un autre de mes intérêts, parce que ça a beaucoup changé, encore une fois, heureusement, ça évolue, mais Louise Richer a déjà dit, il y a plusieurs années, que quand on entendait une femme qui faisait de l'humour, on entendait la femme et avant l'humoriste, alors que quand on entend un gars qui fait de l'humour, on entend un humoriste. Et ça, les filles, à travers les années, on est obligé de travailler là-dessus parce que dans le temps de Lise Dion, d'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec Lise Dion avant son premier spectacle solo. Ça date. Elle n'était pas encore connue.
Ça date du Duncan.
Oui. Je me pète les bretelles. J'ai parlé à Lise Dion avant qu'elle devienne une méga star. C'est bien une fun. Donc, ça a beaucoup évolué. Donc, ce que je voulais dire, c'est que avant, les filles devaient tout faire pour faire oublier que c'était des femmes qui faisaient de l'humour. C'est-à-dire qu'il fallait montrer qu'elles étaient capables de faire de l'humour de gars. Même Chantal Lamarre avait dit « Pour faire de l'humour, quand t'es une fille, il faut que tu te greffes une gosse, puis là, ça va aller. » Elle avait dit ça à un moment donné dans une entrevue. Et j'avais dit « Tu sais, ça a dit bon sens, ça. Il faut montrer qu'on a l'assurance du gars, on a de l'audace, on a un front de but et tout ça. » Mais il y a eu un virement à un moment donné, et ça s'est fait, évidemment, au cours des années, mais ça a été cristallisé par Corinne Côté. À un moment donné, il y avait un colloque sur l'humour, et là, elle avait dit quelque chose dans le genre, non, c'était pas Corinne Côté, c'était Kim
Lizotte.
Ah. Oui, voilà, Kim Lizotte qui avait dit, là, moi, je suis une fille, je fais de l'humour de fille, revenez-en. C'est ça, c'est Kim Lizotte, parce que je confondais pas les deux types d'humour, mais les deux événements différents.
Les deux
Et là, ça a été une sorte de de révélation pour moi parce que je me suis dit, tiens, on vient d'assister vraiment à un virage à 180 degrés parce qu'avant, il fallait cacher le fait qu'on était fille parce que on dit, oh, les filles, ça fait de l'humour de filles, les gars font de l'humour tout court, ça c'était entendu. Mais là, le fait de dire, non, je suis une fille, moi, puis je vais vous parler des affaires de filles, puis je vais vous parler de choses dont peut-être vous ne voulez même pas entendre parler, mais je vais vous en parler quand même. Et ça, ça a été, pour moi, là, comme fille qui reçoit l'humour, quelque chose de très libérateur, parce que je me suis dit, à partir de ce moment-là, les filles pourront faire ce qu'elles veulent. L'humour de filles, ça entend l'humour tout court, peu importe, qu'il soit genré, pas genré, ça n'avait plus aucune importance. Et ça, encore une fois, c'est les années, c'est les filles, les pionnières qui ont pris la scène et qui ont dit, ben, attends une minute, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est ça. Parce qu'il y avait des thèmes qu'on n'abordait pas. Tu parlais des menstruations, ce que Bakhtine appelle le bas corporel, les fonctions du bas, là, comme on dit, en bas du nombril.
Le bas du corps,
comme on dit. Le bas du corps, avoir mal dans le bas du corps. Ben là, maintenant, les filles peuvent parler de ça. Les filles vont parler de leur accouchement et tout ça. Il y a une libération de la parole. Les filles vont aussi aller, je dis pas que c'est nécessairement bon, mais plus dans la vulgarité si ça leur tente. C'est défoncer les tabous de la parole, là. Le vocabulaire, la structure de phrase, peu importe, on libère tout ça, c'est comme une sorte de flot, là, un torrent qui emporte tout ce qu'ils ont passé.
Cette évolution-là, ça s'est-tu fait sur scène avec des humoristes aussi, ça s'est pas d'abord fait dans la société, tu sais, si je regarde, là, mettons, ben, moi, tu sais, j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent puis qui m'ajoutent sur les réseaux sociaux puis tout ça, mais c'est top des 35 ans et moins. Mmh. C'est des plus jeunes. Tu sais, j'ai l'impression que avant que j'ai un chum, j'ai eu des dates à m'amener en disant ouais, je suis humoriste, ça, puis t'arrives au café, tout ça, puis le doux, là, il est comme, hey, tu connais-tu l'histoire du gars, là, tu sais, quand, c'est une fois, c'est un gars, un Indien, puis un Indien, puis une personne qui rentre dans un bar, tu sais, puis je suis comme, non, là, je t'ai dit que je suis humoriste, c'est mon travail, là, mais il voulait être plus drôle que moi, absolument, là.
Ah, OK.
Tu sais, pour que je sois excité, là, tiens, c'est bon. C'est pas, non, mais tu sais, tes de Claude Blanchard de 30 ans me font pas d'effet sexuel, merci. mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que, parce que moi, je me souviens que, moi, j'étais la ghostwriter. Dans ma classe, j'étais très drôle quand j'étais adolescente, mais j'étais la ghostwriter du grand imbécile qui avait doublé trois fois. Tu sais, tout le temps, mettons, parce que j'étais assis en arrière avec lui, tu sais. Là, je disais mes jokes vraiment drôles, mais pas fort. Je disais, nan, nan, puis il répétait, c'est lui qui avait le rire, tu sais. Mm-hmm. Ouais, parce que, tu sais, si t'as pas bien vu une fille de faire rire du monde, ce qui était bien vu, c'est de rire.
Absolument.
Ouais. sur ce ton-là. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, tu sais, il y a un changement qui se fait dans la société, là. Tu sais, les gars, ils changent beaucoup, 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 là. Il se promène avec le bébé ici, avec le porte-bébé en avant, même s'il est rose, puis une dentelle dessus sans sac. C'est parfait. C'est parfait, c'est génial. Fait que peut-être qu'ils se sentent moins émasculés d'aller rire les jokes d'une femme. T'sais.
Oui, ben moi je pense que ton intuition est très 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 juste, puis ton expérience aussi est très parlante parce que effectivement l'humour et le social c'est très 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 intimement imbriqué. Donc forcément la société change, donc tout change en même temps, y compris l'humour, y compris les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous autres, ça change peut-être un peu trop lentement à mon goût, à moi, mais au moins, il y a une évolution. Donc,
c'est sûr qu'il y a des contextes où ça change un peu moins rapidement que d'autres. Tu sais, il y a des classes sociales qui changent. Tu sais, on appelle ça les rapports sociaux-sexe quand moi j'étais en études féministes il y a bien longtemps. Les rapports sociaux-sexe sont renforcés, mettons, tu sais, dans certaines classes sociales, dans certaines régions. Puis c'est certain que ça évolue pas tout au même rythme, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui change dans la société, dans les hommes sont dans, on dit la masculinité toxique, on parle de la masculinité toxique, mais les hommes sont de moins en moins comme ça, tu sais, heureusement. Tu sais, on se bat contre le racisme de ça, mais les hommes sont de plus en plus, sais, ils font comme, ben oui, c'est une femme qui a changé mes breaks. Ça veut pas dire que je suis moins un homme pour ça. Puis ben oui, hein, j'ai vraiment un spectacle, puis j'ai vraiment des jokes d'une fille, puis je suis pas moins un homme pour ça. Mm. Alors que j'ai l'impression qu'avant, inconsciemment, ça voulait dire que t'étais un petit peu moins un homme, tu sais.
Mm-hmm.
Une espèce de petite masculinité fragile du patriarcat traditionnel.
Même les filles faisaient moins confiance aux filles, hein, de...
C'est vrai.
Aussi.
Il y a cette confiance-là aussi qu'on accorde maintenant aux humoristes filles.
Mais dans le public de l'île, elles sont plus vieilles, les dames. Mm. Puis il y en a une qui a demandé, l'autre jour, elle est venue la voir backstage, puis elle a dit, mais comment faites rire les hommes rient. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle a dit, ben, c'est drôle.
Mais là, je te dirais peut-être, ça c'est la professeure d'université qui parle, que souvent les filles vont faire rire parce qu'elles vont se moquer d'elles-mêmes. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup d'autodérision chez les filles. C'est rare qu'elles vont détourner leur flèche ironique, si je peux dire, puis aller attaquer la portion masculine. Ça n'a pas beaucoup changé, ça. Les filles sont leurs premières victimes, les filles sont leurs premières cibles. Moi, des fois, j'ai envie de dire, lâchez-vous les filles, là, puis... Parler, je sais pas moi, contre les politiciens, faites quelque chose, mais je... Non, mais c'est parce que les filles parlent souvent de leur aspect physique, puis voyez comment je suis, comment... Oui, c'est sûr que ça va faire rire, parce qu'on se reconnaît aussi beaucoup là-dedans, mais moi, j'ai l'impression que la fille se fait harakiri à chaque fois, ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Puis ça, c'est une des tactiques de l'humour des femmes, on rit de soi, évidemment, fait que personne se sent en danger, personne se sent menacé, mais ça, je répète, c'est la chercheuse qui parle, mais j'aimerais ça, à un moment donné, que les filles sortent de cette obsession-là de leur apparence, parce que les humoristes filles parlent beaucoup, beaucoup de leur apparence, et aillent ailleurs. Moi, ça me ferait bien plaisir. Dans mes recherches, là, je vous le dis, les filles, j'aimerais bien ça.
Moi, j'ai un numéro sur le fait d'être dodu et d'aller magasiner. Puis, j'en ai vu beaucoup des numéros, justement, d'humoristes qui disent... Tu sais, des gars aussi, là. Des gars aussi, en anglais comme en français, puis disent, moi, je rentre dans un buffet chinois, puis, tu sais, tout le monde se sauve, puis des affaires comme de quoi j'arrête pas de manger, tout ça, puis j'aime pas ça, moi. Mm. Moi, c'est, en tant que dodu dans ça, je me sens comme un petit peu comme pas inclus dans le joke, comme, tu sais, j'aime pas ça. Puis j'ai peur que, même moi, s'il y a une personne dans ça qui dit, ben moi, je suis plus dodu que toi, fait que ça veut dire que moi, je suis encore pire que toi, dans le fond, puis qu'elle se sent pas bien, ça fait, moi, je suis pas contente. Fait que, dans le fond, moi, je vais revirer en riant de la vendeuse, tu sais, puis en riant du magasin qui a pas de linge à ma taille, tu sais, puis que, tu sais, pour, tu sais, en riant de l'expérience que j'ai vécue, et non pas de mon derrière à moi. Fait que, je pense peut-être, je sais pas, c'est peut-être, je pense qu'on est rendu là, mais, Moi, je le vois de moins en moins, ça, des propos d'autodérision qui vont être soit grossophobes ou, tu sais, peu importe. Mm. Je vois de moins en moins, ben, je consomme plus de l'humour de la relève.
Ouais. Moi aussi, je consomme plus de mots comme un peu plus féministes. Fait que, t'sais, comme il y avait
un gros. C'est sûr que tu changes l'angle. Ben, là, women's planning.
Fait que, là, c'est sûr que je le vois pas, mais, tu sais, quand t'en as parlé d'autodérision, moi, j'en fais beaucoup, justement, là, je me suis reconnue, j'en fais souvent dans mes shows du monde.
C'est pas grave, correct, t'as le droit.
J'essaie aussi d'aller ailleurs, là, j'essaie de parler de clients désagréables, du service à clientèle pour essayer de trouver une nouvelle angle d'approche, travailler l'écologie. Donc, j'essaie de trouver tous des sujets qui pourraient intéresser ou qui ont vie actuellement, qui est hors du physique, mais plus d'actualité, que tout le monde est comme touché, par exemple, par la pandémie. Là, c'est la variole du singe. Là, je suis comme, ah ouais, la variole du singe. J'ai trouvé une angle qu'on
peut le pogner, parce que là, je t'ai donné la
main. J'ai pas eu la malchance de l'avoir, là, non. Mais trouver des sujets un peu plus engagés qui concernent plus tout le monde, dans le fond. Fait que c'est un bon défi que tu lances. Puis c'est un défi aussi que je me lance actuellement. Fait que, mais merci. Écoute, fait que, ben, les filles, je voulais vous remercier de ces épisodes. Je vais clore l'épisode. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez peut-être ajouter? Un sujet, un thème, une série télé, je sais pas. Quelque chose que vous voudriez qu'on parte de là avec un cadeau, puis on fasse, oh, oui, je sais pas.
Je sais pas, mais si les gens parlent bien anglais, il y a une série qui s'appelle Hacks. qui est vraiment bonne. C'est une stand-up comique américaine. Et son auteur, son autrice. Non, on dit autrice, on est de la misère, hein? On est.
Oui,
quand on a dit auteur, c'est pas intelligent. Mais son autrice, c'est vraiment excellent parce qu'en même temps, ça parle beaucoup d'âge et de comment rester d'actualité et tout ça. Je trouve ça bien, bien intéressant.
Ah, mais super. On va repartir avec cette télésérie en tête.
Ouais.
Merci beaucoup. Donc, ça va clore notre épisode. Alors, je vous remercie d'avoir été présente. Dans ce merveilleux endroit, la Maison de la Culture, que je découvre actuellement et que c'est super beau. Merci aussi également à l'équipe technique qui a fait un super beau travail de test de micro. Donc, et de l'emplacement et tout. Donc, mais merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée à tout le monde.
J'ai vraiment eu du plaisir à parler avec Val Belzile puis Lucie Joubert. Ça n'a pas de bon sens. J'y repense puis j'ai encore des papillons dans le ventre. Ça s'est tellement bien passé. La semaine prochaine, je vais publier une chronique sur le Moyen-Âge. Donc, je vais juste vous parler de qu'est-ce que je pense du Moyen-Âge, qu'est-ce qui m'intéresse à cette époque-là. Parce que, on va se le dire, le Moyen-Âge, moi, je trouve que c'est une époque fascinante. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Fait que, comme si tu vivais tout le temps en camping, là, tu comprends? La semaine prochaine, mercredi, ça va être disponible sur Spotify et YouTube. Alors, j'espère que tu as passé un bon moment. Je m'appelle Coralie Dubois, je suis humoriste et à bientôt!